un poème qui m'a suivi toute ma vie. Il était affiché sur la porte des toilettes quand j'étais petit. Je l'ai appris par cœur à l'école. Il a été 1000 fois traduit pour devenir une chanson, une citation sur une carte postale à l'entrée d'un musée, d'un stade. J'ai l'impression que ce poème, il fait partie de ma vie. C'est un poème que tout le monde connaît de Rudyard Kipling. Une très longue liste de choses à accomplir ou à supporter pour devenir quelqu'un de bien, mais surtout pour devenir un homme. C'est très clair, c'est le dernier vers, c'est même son titre quand il a été traduit en français par Mauroy, tu seras un homme, mon fils. Et plus j'y pense, plus je me dis que j'ai grandi avec cette idée qu'il y avait pas mal de conditionnels avant de devenir un homme. Accepter toutes sortes d'épreuves, avoir confiance en soi, savoir se reconstruire sans jamais se plaindre, garder la tête froide, faire preuve de patience, de mesure, de sagesse, de résilience, de vertu, de force, de confiance. Alors je sais bien qu'il faut pas tout prendre au pied de la lettre, mais avec le recul, je me dis que l'accumulation de ces conditions pour être un homme a quelque chose de vertigineux. Ce que dit ce poème en réalité, c'est que tu ne seras jamais un homme, mon fils. Parce qu'on va pas se mentir, il y a très peu de chances que tu remplisses toutes ces conditions. Et j'y vois, pardonnez-moi, toute la perversité de l'idée même de masculinité avec laquelle on grandit. Qu'on le veuille ou non, c'est une suite d'injonctions morales, physiques, mentales, qui sont censées vous élever, mais qui en fait vous rabaissent. À chaque fois, je me fais la même remarque quand ce poème me rattrape. Est-ce que j'ai vraiment envie d'être un homme ?
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui interroge la masculinité. Humoriste, révélé il y a 7 ans, alors qu'il n'en avait que 16, par ses chroniques dans Le Petit Journal, puis dans Quotidien, son premier seul en scène, presque, mis en scène par Farid, est un triomphe, un spectacle sous forme d'auto-analyse où il dissèque ses peurs, ses doutes, ses failles, avec un sens du rythme, du corps, de la nuance assez sidérant, je dois dire. Bonjour Panayotis Pasco.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Ben, ça veut dire quoi être un homme pour vous, tiens?
Être un homme, je pense que c'est ne plus se poser la question de ce que c'est qu'être un homme, aujourd'hui en tout cas.
Vous l'êtes beaucoup posé, vous?
Ah, je me suis beaucoup posé, ne pas croiser ses jambes d'une manière particulière quand on est dans le métro parce qu'on nous regarde.
Ne pas lever le petit doigt quand on boit le thé.
Ah oui, ça je le fais tout le temps par exemple. Ne pas fumer des fines, des clopes fines, ça je m'en rends compte en ce moment, en fumant des Vogue.
Ne pas fumer debout, ne pas fumer en marchant. Dans quelle conception de la masculinité est-ce que vous avez été élevé, vous?
Une conception... La masculinité chez nous, c'était ne jamais être vulnérable.
Ne pas montrer ses sentiments, ne pas les exprimer.
Ne pas les exprimer, et peut-être même montrer qu'on en a jamais, qu'on en a pas.
Mais alors, quand vous étiez petit avec vos frères, quand il vous arrivait d'exprimer vos sentiments, il se passait quoi, Panayotis Pasco? Comment réagissait votre père?
C'était très froid. D'un seul coup, bloc de granit, il se fermait. C'était vraiment il y avait un mur qui se construisait entre lui et nous. Dans ces moments-là, c'était un peu particulier. C'était même très particulier. Je me souviens d'un moment où il est venu et il m'a fait un peu des guilis comme ça. Et il m'a dit, moi je rigolais, tu vois. Et il m'a dit juste, non, il faut que t'arrêtes de rire. Et je dis, mais pourquoi? Il m'a dit, faut que t'apprennes à te contrôler. Ne rigole pas. Et il m'a fait des guilis jusqu'à ce que j'arrête de rigoler. Il m'a dit, c'est bien. Et il est parti. C'était ce genre de choses, quoi.
Vous savez, c'est quelque chose qui m'a fasciné dans votre spectacle. C'est leçon de masculinité. Dites-moi si je me trompe, mais il paraît qu'il se jetait dans les orties pendant les balades en forêt, votre
oui.
frère.
Non, un jour, on était en forêt et il y avait un de mes frères qui pleurait. Et pour donner une petite leçon de vie à mon frère, mon père a retiré son pantalon et parti dans les orties en caleçon. Et c'est vrai, moi j'ai encore cette image parfois qui me hante, hein, dans mes cauchemars, Augustin.
C'est terrible.
Et mon père est revenu en caleçon, il avait les jambes pleines d'orties. Et il a juste dit à mon frère, est-ce que moi je pleure? Et mon frère a dit, qui appelle la DAS en fait? Qu'est-ce qui se passe?
Tout en étant déformé par la douleur en fait.
Bien sûr. Et mon père disait, tu vois, c'est ça un homme. Même quand on a envie de pleurer, ça pleure pas. Il avait envie de pleurer, tout était horrible.
Est-ce que vous avez fini par comprendre l'intérêt pédagogique de ce geste champêtre, de ce geste forestier, Panayotis Pasco?
Ouais, je commence à le comprendre. En fait, ce que je comprends avec du recul aujourd'hui, c'est que ces espèces de petits moments, c'était pour lui une manière de nous faire appréhender le monde. Parce que je pense que pour lui, le monde a été compliqué, parce que c'est notre génération, il est né en 55. Et je pense qu'en fait, c'était vraiment une manière de nous créer un cocon, bizarre. Avec nous, c'était un peu dur, peut-être qu'on était plus jeunes. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'était vraiment sa manière d'essayer de nous aider, quoi. Il voulait nous donner la bonne pilule dans Matrix.
Avant cette sortie tragique dans les bois, comment était-il le petit Panayotis? Quel genre de petit garçon est-ce qu'il était?
Sortie tragique dans les bois. Enfin,
sortie champêtre.
Comment il était? J'étais assez seul déjà, enfant. Assez seul. J'écoutais beaucoup d'opéra et de rock, des trucs assez particuliers. J'écoutais Toto, Queen, The Police. C'était assez bizarre pour les autres de mon âge. Et ma mère, il y a pas longtemps, j'ai fait une interview avec elle et elle a dit aux journalistes, c'est bizarre, mais il nous faisait un peu peur quand il était enfant parce que il avait l'air vieux. Il a jamais été enfant.
Oui, et vous aviez une voix bizarre.
Alors ça, c'est pas gentil.
Non, mais c'est avec un accent un peu particulier.
Ouais, j'avais un accent quand j'étais enfant, je sais pas pourquoi, j'ai revu des vidéos. Je parlais vraiment comme ça. J'étais pas allemand, mais j'avais un petit accent allemand, je faisais vraiment flipper les gens.
Ça n'a aucun sens. Ouais. Un enfant qui se connectait facilement aux autres, paradoxalement, qu'est-ce que ça voulait dire concrètement, ça?
Bah en fait, je sais pas, je me rends compte, et c'est vraiment le deuil que je suis en train de faire en ce moment, que c'est plus dur quand on devient adulte de se connecter aux autres. Moi, quand j'étais petit, j'avais pas encore compris la différence entre la fin de mois et le début des autres. Tout était très, tout le monde était le bienvenu dans mon univers, quoi. C'était tout un bonjour, comment allez-vous? J'étais vraiment un petit témoin de Jéhovah, quoi. J'allais sonner à toutes les portes. Et c'était bizarre.
Au risque de créer le malaise chez votre interlocuteur.
Bien sûr. J'étais le genre d'enfant un peu particulier, que vous savez, vous êtes à une soirée de famille, vous l'avez jamais vu de votre vie, cet enfant.
Ouais.
Et il vous tire le pull. Vous vous retournez et dites « j'ai mal aux fesses ». Et vous, vous êtes en mode « mais que, pardon, enfin on se connaît pas, qu'est-ce que... » Non mais parce que maman, elle avait dit « pas la moussaka ». Et j'ai pris deux fois de la moussaka. Mais qu'est-ce que je fais avec cet enfant? J'étais cet enfant en fait. Tout le monde, y avait... j'étais vulnérable tout le temps avec tout le monde. J'avais aucun problème à cacher mes fragilités. Tout était le bienvenu dans mon univers.
Qu'est-ce qui vous met mal à l'aise, vous, Panayotis Pascu?
Qu'est-ce qui me met mal à l'aise?
Dans la vie.
Oh, l'intimité.
Ah, c'est vrai? Les gens qui se confient trop, ouais, c'est ça.
Oui, et j'ai envie de dire aussi même l'intimité des autres. Et je m'en rends compte aujourd'hui parce que parfois j'essaie d'écrire des choses qui sont pas forcément marrantes. Et je me rends compte en les lisant à mes amis ou autres que je vais à toute berzingue parce qu'en fait je ne veux pas être touché par leur intimité. Je veux pas me faire pénétrer par leur intimité.
Quelquefois c'est trop.
Quelquefois c'est trop. Et je crois que ça va me rendre malheureux dans ma vie, donc j'essaie de travailler là-dessus. J'essaie de laisser l'intimité des autres entrer en moi.
Au point, ça vous arrive de mettre les gens mal à l'aise, vous?
Ah oui, moi c'est ma passion. Mais c'est comme, c'est horrible, hein. Mais c'est un truc sur lequel je travaille. Mais c'est comme ça que j'aime les gens. Chaque personne cache son amour dans des petites phrases, des petites actions du quotidien, comme un cheval de Troie, quoi. Bah moi, je cache mon amour dans les vannes un peu méchantes.
Oh, alors il faut nous donner un exemple, peut-être au point d'être blessant, au point d'être gênant.
Il y a un de mes amis il y a pas longtemps, je vais dire ça sur France Inter à 9h du matin, qui a attrapé un cancer. Et quand il a attrapé un cancer, tous mes potes et moi, on a décidé de lui organiser une fête surprise pour lui souhaiter un joyeux cancer. Je sais pas ce qu'on
sait.
Ouais, c'est très bizarre. Et à cette soirée, on a organisé un foot et il était au cage parce qu'il est méliné, il a chié au cage, mais on voulait pas qu'il court, parce qu'il avait un cancer. On savait pas gérer cette maladie, c'est horrible. Moi, quand on me l'a annoncé, il m'a dit, voilà, j'ai un cancer, je lui dis, bois beaucoup d'eau. Donc vraiment, c'est dur à gérer.
Rica Zaray, quoi.
De la Contrex, je crois que j'ai dit précisément. Et il était au cage, et à un moment, il y a un ballon qui rentre, et c'était tellement facilement arrêtable, mais il est nul à chier, le ballon est rentré. Et tous mes potes étaient tellement énervés, mais ils pouvaient pas le montrer. Et moi, j'étais vraiment énervé, je suis allé le voir, et je lui ai dit, excuse-moi, t'as attrapé un cancer. Tu peux attraper un ballon.
Oh non.
Et en fait, non, mais je me suis rendu compte que j'ai vraiment dit ça parce que moi j'étais triste et c'était de l'amour que je savais pas exprimer. Ça me touchait qu'il ait cette maladie. Je savais pas le montrer et du coup vraiment je lui ai envoyé des scuds dans la gueule toute la soirée.
Rassurez-moi, ces problèmes, vous en avez parlé quand même à un professionnel, à un analyste.
Oui.
Panayotis Pascu.
Un petit peu.
Quand est-ce que ça vous est apparu comme quelque chose de nécessaire que de consulter?
Ça m'est apparu quand j'ai eu des problèmes. Avec mon intimité, avec l'intimité des autres, justement, quand j'ai appris que il y avait pas de séquence entre mon intimité et celle des autres,
oui.
Que ça allait être une intimité un peu solitaire. Et ça m'a vraiment fait de la peine. Je crois que vraiment que je me suis dit, faut travailler dès maintenant là-dessus, parce que regarde l'exemple de ton père, il est relativement mal à l'aise avec son intimité, et je me disais, il faut essayer de contrer ce truc. Donc le plus vite possible, essaie d'aller voir quelqu'un qui t'aidera.
En fait, la vraie question, la seule question, c'est comment faire pour ne pas se sentir dans la vie comme un escargot trimballant sur son dos. Une coquille vide.
Exactement.
C'est une question à laquelle vous répondez.
Dans le spectacle, oui.
Qu'est-ce qui vous remplit dans la vie, vous?
Je crois que mon métier, pour le moment, me remplit vraiment. J'aime raconter des histoires, et je pense que je préfère même plus ça que de faire rire les gens. J'aime raconter des histoires, et j'aime sentir que, bah là en ce moment c'est à l'européen, mais j'aime sentir que on est tous ensemble, les 400 personnes dans le public et moi sur scène, on est ensemble sur la même histoire, on est connectés pendant un instant.
Ouais.
Sur la même histoire, et ça vraiment je crois que c'est le frisson qui me remplit en ce moment.
Vous savez qu'il y en a une qui nous remplit dans cette émission, parfois un petit peu trop, mais jamais au point de nous gaver. Est-ce que vous la connaissez, Panayotis?
Est-ce que ce serait pas la culture?
C'est évidemment la culture. Et son actualité roborative, que se passe-t-il donc aujourd'hui mardi 30 novembre?
J'ai deux amours.
Joséphine Baker, la patrie reconnaissante, dès 17h30, aujourd'hui le cercueil de la danseuse noire, militante, résistante, mère de 12 enfants adoptés, incarnation de la liberté et de l'égalité des peuples, remontera à la rue Soufflot à Paris avant de rejoindre le caveau numéro 13 du Panthéon, aux côtés de Maurice Genevoix et non loin d'André Malraux, de Simone Veil, de Jean Moulin. Symbolique, cette cérémonie qui célébrera la pluralité, la fraternité, l'unité du pays restera la grande actualité de ce 30 novembre, la seule qui nous inspire vraiment.
I think the world of art is big and small at the same time.
Virgil était là après l'annonce hier de la disparition soudaine du génial créateur Virgil Abloh. La marque Louis Vuitton, dont il dirigeait la ligne Homme, présentera aujourd'hui à Miami sa dernière collection au cours d'un show hommage baptisé Virgil Was Here. Icône engagée du streetwear de luxe, Virgil Abloh avait œuvré tout au long de sa carrière à faire se marier les cultures urbaines, les arts plastiques. Il avait 41 ans seulement. Rest in power. No, there's been pain this year, but it's time to let it go. Next year you never know, but for now, Merry Christmas. Et c'est Maria qui va faire la tronche dans une très scélérate tentative de vol de Noël à la Divine Carré. Ed Sheeran et Elton John ont dévoilé hier sur les réseaux deux vidéos teasers dans lesquelles ils annoncent la sortie imminente d'une chanson de Noël en duo, recréant la scène culte des pancartes du film Love Actually. Les deux pop stars nous livrent les premières notes du morceau Merry Christmas, très original, qui sera disponible en intégralité partout dès vendredi. La guerre de Noël est déclarée.
Dites-moi, je pense à une chose. Il faut bien qu'elle soit ratifiée par moi, cette nouvelle traduction.
Et enfin, Bénec Impec, le Grand Prix SGDL Ministère de la Culture 2021 pour l'œuvre de traduction, l'un des plus prestigieux du genre, a été attribué à Sophie Bénec, traductrice de littérature russe et cofondatrice des éditions Interférence. Sophie Bénec a notamment permis au public francophone de découvrir des textes intenses, puissants, parfois oubliés, comme les récits et le théâtre de Léonid Andreïev, la poésie d'Anna Akhmatova ou encore les textes de Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature en 2015. Hey. Humoriste Panayotis Pasco, surtout invité de Boomerang ce matin pour parler donc de ce premier seul en scène presque que vous avez commencé à roder il y a déjà 2 ans. Alors vous aviez déjà quitté la télévision à l'époque, pour quelle raison d'ailleurs est-ce que vous êtes parti?
Pour le flux, pour la question du flux. En fait c'était vraiment beaucoup déjà, je pense, que d'arriver à 17 ans à la télévision sur un casting, donc vraiment par coup de chance un petit peu, c'était particulier, c'était intense. Et le flux, c'est-à-dire entre le moment où j'avais l'idée de la chronique et le moment où elle était diffusée à 2 millions de téléspectateurs, il y avait 24 heures. Et à chaque fois j'avais cette espèce de goût amer en plateau de me dire mais j'avais envie de peaufiner cette chronique, de la travailler. Et c'est pour ça que j'ai senti qu'il fallait que je commence la scène, parce que la scène c'est un spectacle, c'est un objet qu'on sculpte, on prend du temps, on dégraisse, on essaie, on réessaie, on se foire, on retente le lendemain, et ça prend du temps à construire, et j'avais envie de construire quelque chose sur le temps.
Et j'ai l'impression que vous saviez plus vraiment qui vous étiez à ce moment-là.
Non, c'était, j'étais un peu perdu. Et c'est très bizarre en plus d'être entre guillemets, je mets vraiment des grands guillemets, il est marrant ce geste avec les doigts, hein, des guillemets, ouais, que vous voyez
on
pas.
On dirait une petite abeille.
Non, c'est très bizarre. Ouais. D'être entre guillemets médiatisé à cet âge-là, au moment où on sait pas qui on est, au moment où on doit faire le deuil, savoir ce qu'on garde, ce qu'on jette de son éducation, savoir quel adulte on va devenir.
Et en même temps, est-ce qu'on le sait?
C'est particulier d'être médiatisé.
Est-ce qu'on le sait jamais, ça?
Non, on le sait jamais.
Bah ouais, est-ce qu'on n'est pas toujours presque soi?
Vous seriez pas venu voir le spectacle,
peut-être. Comment est-ce que vous êtes retrouvé à faire de la télé à tout juste 16 ans? Qu'est-ce qui vous animait, en fait?
L'argent, vraiment. Non, pas du tout. Non, en fait, je faisais des petites vidéos sur Internet depuis tout petit parce que j'étais vraiment seul quand j'étais plus jeune et j'adorais l'humour. J'adore l'humour.
Ouais.
C'est vraiment une phrase de con.
Oui.
Je vois.
Non, pardon, c'est pas ça, c'est ça. Qu'elle est naïve et belle,
mais
en même temps.
J'adore l'humour. Ouais. Et respirer. C'est deux choses que j'aime de manière sine qua non. Il a dit sine qua non, il doit être intelligent. Non, j'adorais ça et du coup, je voulais rencontrer les artisans de l'humour. Et donc, j'allais en RER à partir de mes 12, 13 ans à Paris à la sortie des cafés théâtres pour parler aux humoristes, pour leur demander comment on fait. Et à un moment, il y a un humoriste, Alex Lutz, avec qui je travaille toujours aujourd'hui, j'ai cette chance, qui m'a présenté à une directrice de casting, et j'ai passé des castings que j'ai foirés pendant des années. Et à un moment, j'en ai réussi un à 16 ans et demi pour la télévision.
Mais vos parents, ils disaient quoi de tout ça?
Bah, ils disaient pas grand chose. En fait, ils étaient assez heureux quand je rencontrais des gens qu'ils connaissaient, qu'ils avaient vu à la télé à Vivement Dimanche. Il y avait un peu un truc vraiment, il a serré la main de Vincent McDoum, quoi. Et c'était assez marrant.
Il est à deux doigts du canapé. Ouais.
Exactement, à deux doigts du canapé de Drucker.
Vos parents, vous en parlez énormément dans ce spectacle. Ouais. On l'a peut-être déjà un peu compris. Quelle a été leur réaction quand ils vous ont vu à la télé pour la première fois?
À la télé?
Ouais.
Alors je me souviens, moi je suis rentré directement après l'émission. Je sentais que j'avais besoin de leur parler. Et quand je suis arrivé, j'ai sonné. Je me souviens, j'ai vraiment pris un temps devant la porte. Et j'ai sonné, ma mère elle m'a ouvert, elle était en peignoir, elle m'a pris dans les bras, elle m'a serré tellement fort. Et elle m'a dit dans l'oreille, ça m'était jamais arrivé, elle m'a dit dans l'oreille, je suis tellement fier de toi mon fils. Et j'ai pris un petit pas de recul et j'étais vraiment bloqué. Je lui ai juste dit très bien. Comme une espèce d'aristocrate,
c'était tellement bizarre.
Mais oui, et le bloc de granit, je devenais comme mon père, quoi. Et j'ai fui, je suis arrivé dans le salon, il y avait mon père assis face à la télé éteinte, et il m'a dit, j'ai regardé le journal Petit. Il savait pas très bien dire l'émission. comme tout le monde disait la quotidienne après quand j'étais à quotidien. Et il m'a dit.
Ou le petit quotidien.
Ouais, le petit quotidien. Et il était vraiment ému, je l'ai senti, mais tout de suite tout s'est fermé, il m'a juste dit, tu regardes trop dans le vide en plateau, t'as l'air d'un imbécile, c'est dommage. Et il s'est levé, il est parti. Je me souviens, il a dit bonne nuit à tous, alors que j'étais tout seul, ce qui montrait vraiment qu'il y avait un malaise de son côté. Et il est parti se coucher. Et c'est ça que je vous dis, c'est que il nous aime énormément, mon père. Vraiment. Et comme la plupart des pères aiment leurs enfants, il pourrait tuer pour nous. Je crois qu'il l'a déjà fait deux fois. Mais il y a cette espèce de mur qui s'érige entre lui et nous dans ces moments-là. Et ça me fait peur. J'ai peur que ça m'arrive.
Vous savez, ce qui m'intéresse, moi, c'est cette idée de seuil, en fait. Comment on sent, Panayotis Pascaud, quand on est au seuil d'une première fois? Quand quelque chose va se passer,
bah c'est flippant parce que d'un seul coup notre territoire s'agrandit et je pense qu'il y a rien de plus effrayant que de sentir son territoire s'agrandir parce que quand le territoire s'agrandit on peut paraître plus petit dedans donc de manière assez bizarre plus notre territoire s'agrandit plus on rapetissit donc je pense que c'est effrayant et notre sécurité se met tout de suite en place et on veut tout rattraper tout attraper tout contrôler et je pense que c'est ça qui fait qu'on passe une vie à marcher à côté de ses pompes quoi parce que à vouloir tout contrôler, je pense qu'on contrôle rien, quoi.
Pourtant, il y a une beauté à la première fois.
Moi, j'adore ça. Et j'essaie d'en faire le plus possible. J'ai découvert le tiramisu il y a un an et demi.
Oh. Il y a trop de café dedans.
Non, mais je sais pas pourquoi, je savais pas ce que c'était. Mais à un moment, j'étais un repas. Il y a un monsieur qui a commandé des tiramisu pour tout le monde. Ce qui est déjà vraiment, voilà, faut poser ses couilles sur la table pour dire non, on va prendre tous des tiramisu.
Ouais. Voilà. Ouais. C'est-à-dire, c'est un acte totalitaire, en fait.
Ah oui,
c'est
quasi dictatorial. Ouais. Et je me souviens, j'ai goûté et c'était la première fois. Et j'ai dû montrer, tu sais, j'ai dû cacher aux autres que c'était la première fois que je découvrais ça. J'ai vraiment fait, ah ouais, bah, c'est un tiramisu, quoi. C'est un tiram.
Cela dit, c'est intéressant parce que la première fois, la beauté de la première fois, c'est aussi la possibilité de l'échec. Vous auriez pu détester le tiramisu.
J'aurais pu détester le tiramisu. J'ai adoré ça, mais c'est ça qui est horrible, c'est que si ça s'était mal passé, je l'aurais caché. Mais là, ça s'est extrêmement bien passé, je l'ai caché aussi. J'ai pas osé dire aux autres que c'était ma première fois, parce que dans tous les cas, qu'elle soit réussie ou pas,
faut jamais le dire.
Jamais le dire. C'est la vulnérabilité, mais c'est le complexe des hommes pour leur première fois, c'est de faire croire à la personne avec qui ils font leur première fois que bah non, c'était la 12e. Ouais, bien sûr.
Ouais, alors que clairement, c'était la première, il y a plein de signes.
Ouais, il y a plein de signes. Ouais. T'as tremblé quand même beaucoup des mollets. Hein.
La première fois que vous êtes monté sur scène, justement en parlant de tremblement de mollets, pour présenter votre spectacle, qui est-ce que vous avez appelé juste avant?
J'ai appelé ma mère. J'ai appelé ma mère. C'est quelque chose que je fais assez rarement, mais bizarrement, quand j'ai peur, j'appelle des amis. Quand j'ai extrêmement peur, j'appelle ma mère.
Est-ce qu'elle vous a rassuré au moins?
Elle m'a rassuré. Elle m'a dit un truc assez mignon. Elle m'a dit, écoute, c'est une première fois. Et une première fois sur scène, je pense que c'est comme une première fois dans la vie. Faut essayer. Et puis si c'est pas pour toi, c'est pas grave. Faudrait essayer d'autres choses. Et elle m'a dit, c'est ta première fois sur scène, c'est sûr tu vas te planter, mais c'est pas grave. J'ai dit stop, non merci. Ça c'est toujours les mamans, elles font toujours la phrase de trop.
Oui.
Vous savez, elles s'enfoncent un petit peu dans des idées comme ça. Et dès qu'elle fait une phrase de trop, ma mère elle se rattrape à la Jean-Claude Van Damme. Elle m'a dit, non, tu vas planter la graine du talent qui va germer dans le succès. J'ai dit bon, ok, merci madame, j'ai raccroché. Je suis allé faire le spectacle, effectivement je me suis planté pour la première.
Ce qui est super, c'est qu'elle est sans filtre, votre mère Panayotis Pascaud, j'ai l'impression. Comme la fois où elle vous a fait monter pour la première fois à l'avant d'une voiture.
Ah oui.
Ça c'est une scène extraordinaire.
Ah oui, j'en parle dans le spectacle. Elle m'a fait monter très tôt à l'avant de la voiture et moi j'étais vraiment stressé. Je me souviens, elle a bloqué la portière, elle m'a dit monte à l'avant et j'étais en mode mais t'es sûr?
Mais c'était une belle journée, tout avait bien commencé.
Elle m'a dit oui, je suis sûr. J'ai dit alors pourquoi on chuchote? Je suis monté à l'avant et c'était vraiment, tout était magnifique. Et elle a lancé une musique, c'était Hey Jude des Beatles. Tout était vraiment magnifique, il faisait beau, c'était le début de l'été, le début des possibles. Je devenais un adulte. Tout était magnifique et ma mère a baissé la musique et elle m'a dit tu sais, c'est sur cette musique que j'ai envie que tu m'enterres. Ouais, ça, c'est ma mère. Mais il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui sortent un peu tout ce qu'ils ont au fond du cœur quand ils le peuvent. Et moi, j'étais vraiment traumatisé quand j'étais à l'avant. Et elle l'a vu et tout de suite, elle m'a calmé. Elle m'a dit, non, mais attention, calme-toi, tout va bien. Il y a pas que maman qui va mourir, tu sais. Tout le monde meurt. Non, mais arrête, faut s'arrêter.
C'est combien de séances de psy pour se remettre de ça?
Assez peu, bizarrement, parce que c'était dit avec énormément d'amour. Et en fait, je pense vraiment que ma mère, parfois, comme vous en parliez juste avant, elle a une espèce de seuil et quand elle passe de l'autre côté, bah en fait j'ai compris à ce moment-là pourquoi ma mère n'a jamais de problème dans sa tête, c'est parce qu'elle est dans la nôtre, ce qui est très malin. C'est vraiment comme ça que fonctionne la vie.
Et du coup, comment ça se passe quand vous réécoutez Hey Jude des Beatles?
Bah c'est très bizarre, c'est très chaud et froid, c'est très salé sucré quoi.
Bon, on va être dans le salé sucré alors tous les deux. On va être dans le chaud froid, Panayotis Pascaud. Dans Boomerang, Hey Jude des Beatles en 1968, c'est Boomerang évidemment.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to
Inter. Boomerang. Augustin Trapenard.
En fait, on est quelque part entre le chevalier du zodiaque et Denis la Malice. La mèche longue, lustrée, l'œil vif et facétieux, la dent mordeuse, la main farcée attrape, toujours plus d'un tour dans son sac, même quand il a pas de sac, avec son pantalon carotte, qui pousse droit, grâce à leur petite racine, c'est lui qui vient de me le dire, l'humoriste et comédien Panayotis Pasco, invité de Boomerang, ce matin pour presque ce seul en scène actuellement à l'Européen, en tournée dans toute la France. C'est un spectacle très intime, en fait, où vous nous parlez de la difficulté qu'il peut y avoir à exprimer ses sentiments, on l'a compris, mais aussi des efforts qu'on déploie pour plaire aux autres. Est-ce que vous vous plaisez à vous-même au moins?
Oh waouh, ça c'est des questions qu'il faut pas poser alors que je viens de boire juste deux cafés et que j'ai l'estomac vide. Hein.
Vous pouvez dire non. Hein.
Je travaille là-dessus. J'essaie en tout cas de me suffire. Mais parfois, dans mon lit, quand je suis seul le soir, c'est dur quoi. Il y a un truc un peu de le plafond, il est bien à regarder quoi.
Mais qu'est-ce qui vous attire chez les autres? Qu'est-ce qui vous plaît chez les autres? Tiens.
Tout ce que je suis pas.
C'est-à-dire?
Ça va paraître sombre, mais vivant. Très inconscient, en tout cas, être vivant, quoi. Ne pas vivre pour prouver aux autres que moi, je sais vivre.
Vous savez, moi, ce qui me frappe, Panayotis Pasco, dans ce que vous racontez dans votre spectacle, c'est précisément la manière dont vous avez essayé de faire plaisir, en fait, à votre père, notamment, comme lorsque vous avez choisi de faire de l'accordéon, par exemple.
Ah oui, moi, j'ai fait 6 ans d'accordéon pour lui faire plaisir.
Mais quel instrument est-ce que c'est, l'accordéon, somme toute?
Un instrument assez triste, hein. J'en ai fait 6 ans. Non, mais c'était super, mais je voulais faire de la guitare, hein, à la base, mais ouais, j'ai choisi l'accordéon. C'est un instrument assez complexe parce que, c'est un instrument, quand on en fait vraiment, déjà, c'est 8,5 kg qui vous broient les cuisses, d'enfant que vous avez. Et dès qu'on en fait, on dirait que la guerre vient de se terminer il y a 6 minutes.
Oui, parce que
toutes les chansons, c'est vraiment, et les petits moignons des combattants d'Avignon, qui sont revenus du front. Tout est un peu comme ça avec l'accordéon, c'est très compliqué.
Vous auriez préféré jouer Hey Jude à la guitare, en fait.
Peut-être.
Ouais. Dans quelle mesure, pour autant, cet instrument, l'accordéon, a-t-il contribué à faire de vous un être à part?
Mais je crois que c'était aussi l'envie de tout de suite me coller une étiquette sur le front différent des autres. Et par différent des autres, je voulais dire unique. Et par unique, je voulais dire appréciable. Je pense que c'était ce que je faisais, et par appréciable, aimable. Donc je crois que c'était vraiment pour essayer d'attirer l'œil des autres, pour pas qu'il aille ailleurs.
Mais ça a marché, on est appréciable?
Je sais pas, j'allais faire des concours dans le Poitou-Charentes d'accordéon, quoi, le week-end. Donc je voyais moins mes amis pour faire des foot.
En chantant les petits moignons.
Exactement. J'étais en Poitou-Charentes, je bouffais du broyer à côté du Futuroscope sur une aire d'autoroute et je faisais les petits moignons. C'était mon enfance, mais c'était super.
C'est toujours intéressant, je trouve, de parler de musique avec un humoriste. Au fond, en quoi l'exercice du seul en scène, c'est peut-être avant tout une affaire de rythme?
C'est une affaire de rythme. Parce qu'en fait, c'est un dialogue, le seul en scène. Parce qu'il n'y a pas de quatrième mur sur scène. On parle au public. Alors on parle pas avec eux, mais on parle au public et c'est un dialogue parce que les rires sont la réponse du public. Et en fait, avec ça, on construit le rythme. Et c'est vraiment comme dans une discussion, on va être dedans ou on va pas être dedans. Et du coup, le rythme, pour moi, fait vraiment le tout d'un seul en scène.
C'est ce qui vous dit Farid, votre metteur en scène, par exemple?
C'est ce qu'il me dit souvent. Farid avait un truc très marrant au début, quand j'avais très peu de... Là, ça fait 6 ans maintenant que je fais de la scène, mais et encore, c'est vraiment assez jeune, parce que la plupart des gens qui font de la scène font des spectacles après 10, 15 ans, mais je me souviens, au début, il venait dans la salle, il se mettait dans le fond de la salle, et quand j'étais sur scène, pour le rythme, juste, il faisait... comme un musicien, quoi. Et moi, sur scène, je dis, OK, faut accélérer, faut attraper. Et puis après, des fois, il ralentissait. Et je me dis, OK, redescends un peu tranquille. Et bizarrement, c'est comme un rapport sexuel, en vrai de vrai, un spectacle. C'est vraiment commencer doucement, rester mystérieux, puis commencer à grimper.
Oui, s'il vous plaît, enfin, ouais, chacun sa manière.
C'est vrai, hein. C'est vrai.
Bon.
C'est vrai.
Sur quoi repose pour vous l'écriture d'un seul en scène?
L'intimité. Pour moi, vraiment, et l'intimité est, parce qu'en fait, plus on est intime, plus on est universel. C'est ça que j'ai mis du temps à comprendre.
Ça veut dire que ça s'écrit aussi avec le corps, alors?
Ça s'écrit avec le corps. Ah oui, il n'y a rien de plus intime que le corps. Mais je pense que ça s'écrit et ça doit sortir de soi. Et c'est, moi, je vois ça un peu comme un moment où je parle sur scène des angles morts que j'ai dans la vie. Tout ce que je ne sais pas cerner et que j'ai du mal à aborder dans la vie, j'essaie d'en parler sur scène parce que ça me fait du bien. C'est très égoïste, mais ça me fait du bien. Et en fait, je me rends compte que plus je suis intime, plus je deviens universel. Et c'est, je crois, la beauté du stand-up et du seul en scène. C'est qu'en fait, tout le monde se reconnaît dans des histoires qu'ils n'ont jamais connu. Et ça, je trouve ça assez beau. Et c'est ce qui est beau aussi avec le cinéma. Et je trouve qu'il y a beaucoup de liens et de ponts entre le seul en scène et le cinéma.
C'est avec votre corps que vous nous avez écrit une carte blanche aujourd'hui ou pas? Parce que vous avez écrit avec une carte blanche, il paraît.
Ouais.
Avec
mon cœur. Mais j'ai dit sur un ton dégueulasse.
c'est
bizarre de dire sur un ton sexuel.
Ça nous arrive pas souvent dans le Boomerang. Donc du coup, ouais. C'est un peu troublant. Bah, allez-y, vous faites ce que vous voulez. Je vous laisse.
C'est ma carte blanche.
Ouais.
Bah alors sachez que j'avais vraiment hâte moi de faire cette carte blanche, puis j'ai essayé de m'y mettre et
ça commence mal.
Ouais, et non, hein. En fait j'ai réalisé c'est vraiment horrible. horrible, Augustin, d'offrir une carte blanche à quelqu'un comme moi qui passe sa vie à tout remettre en question. Déjà, se mettre la pression pendant une semaine pour au final essayer de tout donner en deux minutes, non merci. J'ai connu ça toute mon adolescence, par rapport à ma vie sexuelle. Ouais. Et puis offrir de la liberté à une période où tout le monde censure tout le monde, c'est machiavélique. Ma génération ne sait plus gérer la liberté. Moi, dès que j'ai quelques minutes de libre, je sors mon portable, je suis sur Instagram, et au bout d'un moment, juste, je me dis, ah, ça fait ce bruit, un koala. Et c'est tout. Alors là, carte blanche, c'est beaucoup trop vaste, c'était compliqué. Ça devrait s'appeler nuit blanche, cette partie de l'émission, tellement j'ai pas dormi, je vous jure. D'ailleurs, je pense qu'il faut arrêter avec ce terme d'insomnie. Il est hypocrite. Souvent, on le dit au travail. Oui, oui, j'ai une petite mine, mais c'est normal, je fais des petites insomnies en ce moment. Ouais. Apprenons à être honnête, apprenons à dire, bah, en ce moment, j'ai des problèmes dans ma vie, mais je suis trop lâche pour y penser en journée. Donc, j'y pense le soir, et je pleure. Et vu que je suis allongé dans mon lit, mes larmes coulent dans mes oreilles, et j'écoute ma tristesse. C'est ça qu'on devrait dire. Ça m'a stressé, cette carte blanche, et je me suis dit, en fait, comment je peux expliquer qui je suis en deux minutes, alors que ça fait 23 ans que je me pose la question? Alors, mes cernes m'ont poussé à faire comme les enfants la veille d'un exposé, à aller fouiner sur Wikipédia. Et j'ai découvert que le terme carte blanche est un terme militaire à la base.
Oh.
C'était demander à l'ennemi, en passe de gagner, quelles sont ses conditions pour cesser la guerre. Et du coup, voici mes conditions. J'exige, Augustin, l'Alsace. Parce que tout le monde l'avait toujours, c'est sûr qu'il y a un truc cool
c'est
là-bas.
Vrai, c'est vrai.
Et puis j'exige, Augustin, la reconnaissance totale et sans condition de mon père. Ce qui sera d'ailleurs peut-être plus difficile à obtenir que l'Alsace. Ma psy dit que je deviendrai un adulte quand j'aurai réglé ce souci de reconnaissance et elle prend 72 euros de l'heure, donc j'ai décidé de la croire. Non, parce que pour l'instant, je crois que je suis encore un peu un enfant qui joue à l'adulte. Et je crois que c'est comme ça qu'on devient un adulte, on se fait prendre au jeu. Ça commence souvent par un café, on a 11 ans, vous savez, repas dominical, il y a tous tes oncles, ta mère qui dit « bon, je fais des cafés à qui ?» Et toi tu tentes « moi ?»
Ah oui.
Ta mère, un de tes oncles, « allez, fais-lui un petit café. » T'as jamais aucun gamin qui a fait « j'adore, ramenez-moi Libé. » Et je crois que c'est ça, je crois que l'adulte qu'on est tous devenus a poussé autour de l'enfant qu'on était pour le protéger et a fini par l'étouffer en fait. Et on a tous au fond de nous un enfant mort, Augustin.
Non, pas mort, pardon,
un enfant à l'agonie.
Ah.
Non, parce que parfois, peu importe l'âge que tu as, 40, 50 ans, tu marches dans la rue, il y a un passage piéton et tu te dis « je marchais que sur les bandes blanches ». Ça, c'est ton enfant à l'intérieur qui te dit « je suis encore un peu là ». Pourquoi t'as plus beaucoup de cheveux au-dessus? Et bam, tu redeviens un adulte. Tu replaces cette pauvre dernière mèche et tu regardes le monde entier dans les yeux en disant quoi? La calvitie? Non, jamais entendu parler. C'est quoi? C'est une région en Italie? La calvitie. Augustin, je vous le dis, j'exige l'Alsace et la calvitie.
Ça, je l'ai, la calvitie, si vous voulez.
Alors, si je commence à faire l'accent italien, c'est vraiment qu'il faut que j'aille dormir. Et promis, quand je me réveille, je la fais cette carte blanche.
Oh! Merci Panayotis Pasco,
merci à vous,
d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Presque, c'est irrésistible, est encore à l'Européen jusqu'au 31 décembre, mais aussi dans toute la France. Ça se poursuit l'année prochaine jusqu'en avril. Je dis aussi que vous serez également, ce sont des dates importantes, les 7, 8 et 9 avril à Bobino.
Ouais, c'est une salle magnifique.
Et tout de suite, bah, c'est l'heure des médias, Sonia De Villers, l'Instant M, juste après ça.
Merci Auguste.
Ça te rend ça.